I've been a begging to try. Reason with me. If I go get today, I go get them tomorrow. I be you want me make a die. It's not easy for me. If I go get today, I go get them tomorrow.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition. Lundi 8 mai 2023, nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette édition de midi. En marge de sa visite d'amitié et de travail aux États-Unis, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience l'ambassadrice américaine. Il a été question de démocratie, économie, partenariat et sécurité régionale. Lutte contre l'érosion côtière et le changement climatique, le ministère de l'Environnement a instruit les journalistes sur le projet WACA, un programme de gestion du littoral ouest africain. C'était au cours d'un atelier tenu récemment. Et puis sur le continent, la RDC observe une journée de deuil national ce lundi en mémoire des morts et des disparus du Bushushu, c'est dans le sud Kivu. Donc en toute fin de journal, Francis Cassis recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction le professeur Jean-Marie Kouakou. Le président de l'Assemblée nationale conduit une délégation de la Chambre basse du Parlement ivoirien pour une visite d'amitié et de travail aux États-Unis. C'est bien en prélude à cette mission de 5 jours. À compter de ce lundi 8 mai, l'ambassadrice américaine en Côte d'Ivoire a échangé vendredi dernier avec Adama Bictogo. Junior Cardin pour plus de détails.
Au terme des échanges au bureau du président de l'Assemblée nationale, c'est l'ambassadrice des États-Unis, Jessica Davis-Ba, qui va donner la nouvelle.
J'ai eu l'honneur d'être reçue par le président de l'Assemblée nationale juste avant sa visite chez nous. Nous avons parlé de le travail pour continuer à construire la démocratie, les rôles et aussi les responsabilités des citoyens. Donc, je suis venue avec les nouvelles des États-Unis pour le partenariat entre les Américains et les Ivoiriennes et de inviter le président de l'Assemblée nationale de continuer les contacts à Washington.
Cette mission s'inscrit dans la dynamique de la diplomatie parlementaire, a soutenu à son tour le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.
Nous avions pour cette visite abordé certains sujets relatifs à la sécurité dans notre sous-région, les sujets relatifs à l'économie, sur la formation, sur la santé, tous les sujets qui aujourd'hui font l'objet de défis à relever. Et dès notre retour, nous allons avoir à nouveau une séance pour faire le point de cette visite. Et je voudrais dire que l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et le président Joe Biden se traduit dans l'excellence des relations que nous allons avoir avec les parlements américains.
Selon le programme, la première journée de cette visite sera consacrée à des activités politiques à Washington, la deuxième journée à caractère économique à Nouvelle-Orléans. Quant à la troisième journée, elle sera orientée vers la diplomatie parlementaire avec une visite du Capitole.
Parlons d'élections locales et régionales du 2 septembre prochain. Pour le politologue Geoffroy Julien Kouaou, les militants d'un parti politique qui n'ont pas été choisis par leur parti pour être candidats à ces élections et qui, malgré tout, se portent candidats, font preuve d'incohérence avant de renchérir que seuls les candidats qui ne militent dans aucun parti politique peuvent être considérés comme candidats indépendants. Écoutons Geoffroy Julien Kouaou.
Pourquoi à chaque élection, il y a des mécontents? Tout ceci montre très bien que nos partis politiques ont un problème d'organisation et de fonctionnement.
Est-ce qu'il ne faut pas aller à des primaires au sein des partis politiques pour être objectif?
Ce serait l'idéal. Cependant, les primaires ont un grand défaut, c'est d'installer des valeurs et des attitudes centrifuges. Et donc, les partis politiques veulent éviter ces forces centrifuges en essayant de jouer au rassemblement.
Il faut bien laisser les candidats indépendants aller à ces élections librement.
Non. À partir du moment où vous appartenez à un parti politique, vous êtes soumis aux règles de ce parti et vous êtes soumis à la discipline du parti. Lorsqu'on n'est pas choisi, la meilleure des choses à faire, c'est de rallier le camp de la personne qui a été choisie. Entendons-nous bien. Une candidature indépendante est une candidature qui n'est pas parrainée par un parti politique. Donc, qui émane d'une personne qui n'appartient pas à un parti politique. Mais lorsque vous appartenez à un parti politique et que vous êtes un partisan politique, et il est anormal que vous vous présentiez à une élection sous l'étiquette d'indépendant. Cela paraît incohérent.
C'était le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouaou. Le Front populaire ivoirien et le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix ont signé un accord de partenariat sur la réconciliation, la cohésion sociale et la démocratie. C'était le 2 mai dernier à Abidjan. Quel regard l'enseignant, chercheur, expert en communication politique, Bamba Sidiki, porte sur cet accord de partenariat? C'est la question que nous avons posée à cet enseignant chercheur.
C'est un bon partenariat dans la mesure où ça participe de la reconfiguration de l'espace politique. Donc ça nous permet de rompre un peu avec les vicissitudes de nos propres histoires, parce que FPI et RHDP, comme ça, dans notre histoire récente, ce n'était pas quelque chose qui était possible. Si aujourd'hui cela est fait, on doit se dire que les acteurs politiques ont dû changer de logiciel. Donc moi je trouve que, comme une alliance, c'est une bonne chose. Maintenant, pour ce qui est de la projection que je peux voir, je pense que c'est le temps qui nous le dira. Voilà. Sinon, en réalité, tout partenariat ou toute alliance politique, c'est forcément pour des besoins électoralistes. Parce qu'un parti politique a besoin d'élus, et ce sont ces élus-là qui font sa force, lui permettent du moins d'avoir une sphère d'influence. Et on verra, avec le temps, quels sont les différents éléments qui seront actionnés pour que ce partenariat-là puisse durer dans le temps. Donc je crois que c'est sur le long terme qu'on verra tout ça, mais pour moi cela augure d'une bonne chose. C'est-à-dire que dans le paysage politique ivoirien nouveau, on doit comprendre que ce sont les alliances qui doivent faire fonctionner les choses et que c'est pas comme ça que les partis politiques pourront se disputer l'espace politique et pouvoir faire des offres aux citoyens que nous sommes, de sorte que petit à petit, nous puissions comprendre que la politique est un jeu qui a ses règles et qu'il faut y s'inscrire.
Bamba Sidiki, enseignant-chercheur, expert en communication politique, a été joint par Ben Diakité. Toujours au sujet du scrutin couplé régional et municipal de septembre prochain, le docteur Landry Assoumou, enseignant-chercheur à l'Université de Korogo, nous éclaire sur la notion du contentieux électoral et bien d'autres vocables rattachés au processus électoral. Il a été joint par Soro Adams.
Un contentieux électoral, c'est une contestation des élections qui se passent devant un juge. Des candidats ou des électeurs contestent effectivement la régularité des élections. On n'est pas d'accord et on demande au juge d'annuler ces élections. C'est ça un peu l'intérêt du contentieux.
Et en ce qui concerne les élections locales, la Côte d'Ivoire annonce pour le 2 septembre 2023 des élections locales. Les élections locales, c'est quoi?
Alors les élections locales, ça rentre dans le processus de décentralisation. C'est-à-dire, on va demander aux populations d'élire un conseil municipal, voilà, qui va désigner son seul le maire pour gérer les affaires locales dans la commune. Des affaires qui ne nécessitent pas qu'on aille voir les ministres. Voilà. Vous avez une autorité qui est en face de vous, qui va régler vos petits problèmes au quotidien.
Donc, ce sont les élections municipales.
Les fameuses élections municipales.
Les élections régionales aussi?
Oui, les élections régionales, effectivement, rentrent dans le cadre de la grande politique de décentralisation. Mais là, il va s'agir de développer toute la région. Mais c'est des élections pas tellement populaires, celles que les Ivoiriens, effectivement, se mobilisent beaucoup, ce sont les fameuses élections municipales.
Quand on parle d'élections locales, ça voudrait dire qu'il y a d'autres élections qui ne sont pas locales?
Oui, il y a des élections, cette fois-ci nationales, où l'individu ne va pas représenter seulement sa communauté, mais toute la nation entière. Vous avez les élections présidentielles, et puis les élections législatives, voilà, où on va choisir un député, tout ça.
Vous écoutiez Landry Assoumou, docteur Landry Assoumou, enseignant-chercheur à l'université de Korogo. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président directeur général d'une entreprise chinoise signe un mémorandum d'entente. Il porte sur les études de faisabilité du projet ferroviaire de la boucle d'entente. Le choix porté sur l'entreprise chinoise est motivé par son expertise dans la construction de chemins de fer, dont ceux d'Abuja, Kaduna, Tanzanie, Zambie et Éthiopie-Djibouti. Les détails avec Mata Touré.
Gros coup d'accélérateur au Conseil de l'Entente qui relance son projet de la boucle ferroviaire, notamment avec cette signature d'un partenariat qui vient d'être signé avec une entreprise chinoise, CECC, du côté de Pékin, et dont Liu Weimen est le PDG.
On a bien discuté pendant des heures avec la délégation sur la construction, l'étude de faisabilité et l'exploitation du projet de la boucle de ferroviaire. Nous engageons à bien travailler main dans la main pour la réalisation du projet.
À la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente depuis 15 mois, Marcel Amontano s'attelle à redynamiser cette institution à travers un plaidoyer dans les institutions internationales.
Je me réjouis de cette première étape qui matérialise le début du projet de la boucle ferroviaire Entente, qui est un projet très important pour nos pays et auquel nos chefs d'État accordent une attention toute particulière. Je pense que ce projet va permettre d'améliorer la fluidité de circulation des personnes et des biens entre les 5 pays du Conseil de l'Entente et pourquoi pas impacter une meilleure fluidité de circulation entre les 15 pays.
Avec la signature de ce mémorandum, tout est mis en œuvre pour redonner au Conseil de l'Entente son prestige d'antan.
Lutte contre l'érosion côtière et le changement climatique, le projet WACA, programme de gestion du littoral ouest-africain, était au centre d'un atelier d'information et d'échange qui a réuni hommes et femmes de médias le 27 avril dernier dans la commune de Cocody, initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette rencontre a porté sur l'état de mise en œuvre du projet WACA ainsi que sur les perspectives en termes d'investissements physiques et sociaux. Paul-Bénédicte Bolou.
Le directeur coordonnateur du projet WACA a affiché ses attentes face aux journalistes, professeur Oshu Abedelfa.
Un appel à l'implication des porte-voix que vous êtes afin que le travail que le projet WACA fait en matière de résilience des communautés et des zones ciblées de la côte ivoirienne, que ce travail-là puisse être approprié par les populations. Parce qu'il y a beaucoup de travail de sensibilisation dans le projet WACA. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous à nos côtés.
Le coordonnateur adjoint du dit projet, professeur Djakwa Eric Valère, assure les objectifs de l'atelier.
L'objectif de cet atelier est de créer un cadre de rencontre formel afin de vous fournir un large aperçu du projet WACA, ses perspectives et notre approche de communication. La problématique du changement climatique est une affaire de tous, car elle impacte notre environnement de façon très cruciale, principalement nos océans et nos plages à travers l'érosion côtière qui est de plus en plus marquante.
Professeur Djakwa Eric qui s'est prononcé sur les solutions et défis du projet.
Le projet WACA est une réponse à la problématique de l'érosion côtière car il a pour mission de contribuer à la résilience des populations riveraines mais surtout poser les bases d'une gestion intégrée du littoral.
La source de financement est la Banque mondiale et le maître d'ouvrage, le ministère de l'Environnement.
Merci à vous, Paul-Bénédicte Bolou. À San Pedro, le comité de gestion locale du parc national de Taï était à sa première session de 2023. À cette rencontre, le plan d'action de gestion des conflits hommes-faune et la récompense au lauréat du prix vert du meilleur village éco-citoyen ont été quelques grandes lignes développées. Des détails avec notre correspondant de Bassa-Sandra, Kofi Benson.
Cette session du comité de gestion locale du parc national de Taï a présenté le bilan du premier trimestre. Un bilan donnant une performance de 78% des activités programmées. La question de la gestion des conflits hommes-faune a été également sur la table des échanges. Lieutenant-colonel Djarasouba Issa, représentant le directeur général de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves.
Nous avons eu droit à une présentation sur le plan d'action de gestion des conflits hommes-faune à la périphérie du parc national de Taï. Il y a un mécanisme de gestion des plaintes qui sera mis en place de sorte que les populations puissent savoir comment réagir, à qui s'adresser pour référer les cas de conflits qui sont enregistrés en périphérie.
Autre articulation de cette rencontre, c'est les récompenses du prix vert du meilleur village éco-citoyen. Nyangboya, à travers ses actions et depuis plusieurs éditions, le meilleur des villages riverains du parc national de Taï. Les raisons avec Chérif Yakuba, le représentant de ce village.
Nous avons été trois fois lauréats, 2020, 2021, 2022. Mais avant ça, nous avons sensibilisé, mené des actions autour du parc, ce qui nous a mérité ces prix-là. Le parc, c'est vrai, c'est à côté de nous, mais nous ne devons pas d'abord pénétrer, ni couper les arbres, ni chasser les animaux. On dit que si on se comporte bien, on peut avoir beaucoup d'avantages avec le parc. Quand on voit une personne étrangère, quand on sait que c'est quelqu'un qui va rentrer dans le parc pour agresser, on l'interdit de passer dans notre village.
Au total, ce sont 20 millions de francs CFA qui ont été distribués au village lauréat de 2021 à 2022. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
rivages africains, la RDC observe une journée de deuil national ce lundi en mémoire des morts et des disparus du Bushushu dans le territoire de Calais, au sud Kivu. Selon les officiels, environ 400 corps ont été retrouvés. Des proches des victimes sont effondrés. La société civile de Calais affirme que près de 4500 personnes manquent encore à l'appel, alors que les chances de retrouver les survivants s'amenuisent. Plusieurs villages du Bushushu et du Nyamukubu sont détruits. Aujourd'hui, la société civile pense que la seule solution est de délocaliser les sinistrés. Dernière articulation de notre journal, invité de la rédaction. Et ces jours, nous recevons le professeur de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Jean-Marie Kouakou. Tout en souhaitant donc crédibles les municipales et régionales de septembre 2023, il pense que le RHDP est un peu plus en force face à ses deux rivaux que sont le PDCI et le PPACI. Professeur Jean-Marie Kouakou répond aux questions de Francis Cassier.
Professeur Jean-Marie Kouakou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Des élections locales sont annoncées pour 2023, les municipales et les régionales. Vos projections sur ces trois grands partis, le PDCI, le RHDP et le PPACI?
Vous savez, en matière d'élections, il y a deux grands principes qui prévalent dans l'analyse. Le principe de continuité, le principe de l'accident. Vous devez prendre en compte les deux principes. Si on part du principe de continuité par rapport à l'équilibre des forces actuelles, il est évident que le RHDP a quand même une longueur d'avance sur les deux autres partis qui ont pris du retard quand même depuis quelques années. Est-ce parce qu'ils sont dans l'opposition? Je ne sais. Peut-être que la posture du RHDP en tant que parti au pouvoir lui donne certains avantages, comme cet avantage a été favorable au PDCI pendant les années de la présence du PDCI au pouvoir et favorable au FPI à l'époque pendant sa période d'exercice du pouvoir.
Alors, c'est quoi l'accident selon vous en politique?
C'est ce qui survient d'une manière brutale, qui est une rupture. Là, on n'est plus dans la continuité. Vous voyez, par exemple, le président Macron en position favorable depuis quelques années. Puis là, il a lancé sa réforme de la retraite brutalement. Donc, c'est un accident. Ça a rejeté toute sa tendance favorable.
Donc, par rapport au municipal et régional qui doit se tenir, quel serait l'accident pour le RHDP, l'accident pour le PPACI, l'accident pour le PDCI et pour toute autre partie?
L'accident est toujours imprévisible. Donc, on ne peut pas dire que ça sera X ou Y. Mais on peut supposer que le RHDP qui est au pouvoir actuellement peut être soumis à une décision politique impopulaire, par exemple, brutalement, et du coup, ça lui enlève tout son crédit. Il tombe dans le discrédit brutal, accidentel, mais qu'on ne peut pas savoir.
Alors, les partis viennent de publier des listes de candidats. On remarque qu'il y a des zones dans lesquelles il y a des partis qui n'ont pas positionné de candidats là-bas. Est-ce que ça ramène à l'accident dont vous parlez?
Les deux, à la fois continuité et accident aussi. La cartographie électorale en Côte d'Ivoire, elle est telle que dans certaines parties du territoire ivoirien, certains partis politiques ne sont pas acceptés, ce qui est antidémocratique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a du recul de certains partis dans certaines régions, ils n'y vont pas du tout, ils ne présentent pas de candidats, sachant qu'une campagne, ça coûte cher et que le résultat n'est pas du tout possible vu la situation. Là, je parle de la continuité de notre façon de faire de la politique. Il y a beaucoup de gens encore dans les régions qui n'acceptent pas d'autres partis.
Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la démocratie s'instaure dans ces zones, dans ces partis dont vous parlez?
C'est à quoi assistons? On voit que, par exemple, dans une région A, un parti X dit « je veux venir pour battre campagne », il est empêché. Plusieurs années, normalement, là, le judiciaire ou le constitutionnel dit, mais il y a un problème.
Quand vous parlez du judiciaire, là, oui. Vous faites allusion à qui?
C'est le pouvoir judiciaire. Mais même derrière ça, le Parlement, le Sénat, tout ça peut se saisir pour dire, on est en train de vivre une période antidémocratique.
Donc, quand vous parlez du judiciaire qui doit s'auto-saisir, le judiciaire s'auto-saisit pour dire quoi?
Pour dire que tous les candidats doivent pouvoir se présenter dans n'importe quelle partie du territoire ivoirien. Et en cas d'empêchement d'une possibilité de campagne, l'élection peut être invalidée dans cette région, le Conseil constitutionnel, qui doit pouvoir dire non, on ne peut pas valider une élection dans la mesure où chaque citoyen n'a pas pu exercer son droit de vote.
Pour ces élections qui vont se dérouler, par rapport à ce que vous venez de décrire, là, qu'est-ce qu'on doit faire?
Mais c'est la Côte d'Ivoire, d'abord, premièrement, qui doit évoluer démocratiquement. Et ça, c'est le rôle des partis politiques, mais surtout aussi des partis qui sont au pouvoir, parce qu'ils ont quand même plus de pouvoir que les autres partis sur le gouvernement, sur le fonctionnement général du pays.
Mais professeur, quand il y a de tels empêchements et que des partis peut-être sont indexés, ces partis disent que non, nous, on ne connaît pas ceux qui empêchent d'autres personnes d'accéder à ces zones-là.
C'est pourquoi je parle du judiciaire. Ouvrir une enquête sérieuse et situer les responsabilités, on ne peut pas continuer dans ça.
Les indépendants, par rapport à ces élections, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais ça, c'est les luttes internes dans les partis qui font qu'il y a toujours des indépendants. Mais le problème des indépendants, au-delà de ce qui se passe dans les partis, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants avant le vote et après le vote, ils choisissent un parti. Là, il y a problème. Il n'a pas le droit de changer parce que les électeurs, eux, n'ont pas changé. Les électeurs l'ont choisi peut-être en tant qu'indépendant. Ou, parfois aussi, il arrive que ce n'est même pas une question d'indépendant. Ils l'ont choisi en tant que représentant un parti X. Et à la sortie de l'élection, il va prendre un parti Y.
Donc, le faisant, il est en train de narguer les électeurs, c'est ça?
Il est trompé, il y a une duperie quelque part. J'ai acheté quelque chose, il arrive chez moi, et c'est autre chose qui est dedans.
Quel est votre regard par rapport à la CEI pour ces élections locales qui vont se tenir cette année?
C'est toujours le même problème. Je crois que depuis plusieurs années, il y a un contentieux qui demeure sur la question de la régularité, de la composition de la CEI, de sa transparence. Ça a posé problème. Depuis 2010, la CEI était dénoncée. L'élection de 2015, ça a été dénoncé. 2020, ça a été dénoncé. Mais c'est toujours la même histoire. Il faut que les dirigeants ivoiriens et tous les politiques ivoiriens comprennent qu'il est nécessaire qu'une élection soit transparente, régulière et digne.
Mais les politiques vont vous dire que nous, on ne donne pas d'ordre à la CEI.
Ça, c'est ce qu'ils diront. Nous constatons qu'il y a toujours problème à la sortie. Et s'il y a problème, ça ne tombe pas du ciel.
Est-ce que la CEI elle-même ne peut pas prendre ses responsabilités?
La CEI est un organe qui est composé de plusieurs membres. Donc, je veux dire, c'est la composition, l'organisation, les missions, tout ça qui doivent être bien revues.
J'ai entendu des voix qui demandent que la CEI ne soit plus composée de membres de partis politiques. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée le problème?
Oui, ça serait peut-être une solution.
Est-ce que ce n'est pas l'honnêteté, l'intégrité qu'on demande à tout un chacun, quel que soit ce qu'on est? On peut être partisan et puis être intègre, non?
Je suis totalement d'accord avec vous. Tout dépend d'abord de la responsabilité individuelle et de la moralité de chacun d'entre nous.
Tout le monde parle d'être républicain, d'être démocrate, d'être ceci, mais toujours on a des bisbilles. Pourquoi?
C'est trop facile de dire je suis démocrate. C'est trop facile de dire je suis républicain. Il faut savoir de quoi il s'agit.
Professeur Jean-Marie Kwaku, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Oui, échange plein feu avec Francis Cassier, le professeur Jean-Marie Kwaku, enseignant-chercheur en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est bien sûr cette entrevue très enrichissante que nous refermons ce journal le midi, le rappel des titres. En prélude à sa visite d'amitié et de travail aux États-Unis, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience l'ambassadrice américaine. Il était question de démocratie, économie, partenariat et sécurité sous-régionale. Et puis lutte contre l'érosion côtière et le changement climatique, le ministère de l'Environnement a instruit les journalistes sur le projet WACA, un programme de gestion du littoral ouest africain. C'était au cours d'un atelier fin avril dernier. Et puis hors de chez nous sur le continent, la RDC observe une journée de deuil national ce lundi en mémoire des morts et des disparus de Bouchouchou, c'est dans le sud Kivu. À présent retrouvé pour la revue de presse, Carlos Condé.
Bonjour à tous. Le nouveau roi britannique Charles III a